Capital et travail. Nous avons vu qu'à l'origine, capital et travail sont identiques. Les dissertations des économistes nous montrent de plus que le capital, qui est le résultat du travail, redevient dans le procès de production le substrat, la matière du travail. La distinction du capital et du travail, posée pour un moment, se résout de nouveau en leur identité. Et cependant, l'économiste sépare le capital du travail. Il maintient la distinction. Il ne reconnaît l'identité des deux termes que dans la définition du capital, qui est du travail accumulé. Résultat de la propriété privée, l'opposition entre le capital et le travail n'est que la scission du travail en lui-même, et cette scission correspond à cet état de division et en procède. Cette opposition, une fois établie, le capital se subdivise encore en deux parties. Le capital primitif et le profit. Ce dernier étant l'accroissement du capital au cours du procès de production. Et cependant, dans la pratique, le profit est réuni de nouveau au capital et mis en circulation avec lui. Le profit lui-même se divise à son tour en intérêt et en profit proprement dit. Avec l'intérêt, on pousse ces divisions et ces subdivisions jusqu'au comble de l'absurdité. L'immoralité de l'usurier, du prêteur qui empoche sans avoir à travailler, qui touche un intérêt pour consentir un simple prêt, bien qu'ayant sa racine dans la propriété privée, saute par trop aux yeux. La conscience naïve du peuple qui, sur ces sujets, a souvent raison, la flétrit depuis longtemps. Toutes ces oppositions, toutes ces divisions subies procèdent de la séparation originelle entre le capital et le travail. Séparation qui trouve sa forme achevée dans la division de l'humanité en capitalistes et ouvriers. Cet antagonisme devient chaque jour plus accusé et doit, comme nous le verrons, s'accentuer sans cesse. Mais, en dernier ressort, il est impossible de maintenir cette opposition ainsi que la séparation du solde avec le capital et le travail. On ne peut songer à apprécier à combien s'élève pour un produit déterminé, la part du sol, du capital ou du travail. Les trois grandeurs sont incommensurables. Le sol fournit la matière première, mais il ne le fait qu'aider du capital et du travail. Le capital suppose le sol et le travail. Le travail exige au moins le sol et, dans la plupart des cas, le capital. Les fonctions de ces trois éléments sont totalement différentes. Il est impossible d'en trouver un quatrième qui leur serait d'une commune mesure. S'agit-il, dans les conditions actuelles, de procéder à la répartition du revenu entre ces trois facteurs ? Une commune mesure fait défaut. Un étalon fortuit, étranger, en décide. C'est la concurrence. Le droit du plus fort, sous son aspect éthéré. La rente implique la concurrence. Le profit sur le capital est uniquement déterminé par elle. Et nous verrons bientôt ce qui en est du salaire. Faisons abstraction de la propriété privée et toutes ces oppositions antinaturelles s'évanouissent. La différence entre l'intérêt et le profit tombe. Le capital n'est rien sans le travail, sans le mouvement. Le profit n'est plus que le poids que le capital jette dans la balance où se détermine le coût de production. Il demeure une partie inhérente du capital. Le capital lui-même se résout dans son identité primitive avec le travail. Chez les économistes, le travail, le facteur essentiel de la production, la source de la richesse, la libre activité de l'homme, passe un mauvais moment. Le capital avait déjà été séparé du travail. Le travail est encore scindé une seconde fois. On lui oppose le produit du travail sous forme de salaire. On les distingue, et, comme toujours, c'est la concurrence qui détermine ce salaire. Nous avons vu, en effet, qu'il n'existe pas de mesure fixe permettant d'évaluer la part du travail dans la production. Supprimant la propriété individuelle et cette distinction antinaturelle s'évanouit. Le travail est son propre salaire, ainsi qu'apparaît au grand jour la vraie signification du salaire jusqu'ici aliéné. c'est la part du travail dans la détermination du coût de production d'un objet. Nous l'avons vu, tant que subsiste la propriété privée, tout se ramène en fin de compte à la concurrence. Elle est la catégorie essentielle de l'économiste, elle est sa fille chérie qu'il couvre de caresses. Mais prenez garde, à quelle tête de méduse n'a-t-il pas donné naissance ?